Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel avant le débat du samedi. Et si on se projetait vers le monde de demain, celui de l'après-Covid, lorsque nous serons enfin libérés de la pandémie? Et si on se projetait même vers le monde d'après-demain? Mais comment savoir quelles tendances de fond resteront de toutes celles qu'a révélé, accéléré la crise sanitaire? Pour en parler, l'un des experts, l'un des chercheurs les plus influents au monde, ancien chef économiste au FMI, le Fonds monétaire international, professeur émérite au prestigieux MIT, cette université américaine. Emmanuel Macron l'a nommé avec le prix Nobel Jean Tirole à la tête d'une commission d'experts sur les grands défis économiques. Olivier Blanchard sera l'invité du grand face-à-face dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Vous avez l'air particulièrement en forme et loin, loin de la lassitude et de la morosité qui gagnent le cœur des Français et dont vous nous parliez, Gilles, la semaine dernière. Pour commencer, ça.
Je demande simplement s'il est normal d'être condamné à 3 ans de prison quand il n'y a pas un centime, quand il n'y a pas une preuve, quand il n'y a pas un avantage, et quand après 7 ans d'enquête, on n'a rien trouvé. Qu'on applique le droit, c'est la seule chose que je demande. Et pour le reste, les juges qui ont à me juger ou qui ont à requérir contre moi, qu'ils le fassent en fonction de leur conviction, mais de leur conviction pour le droit, pas de leur conviction pour la politique.
Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, aux 20h de TF1, c'était mercredi, c'était après la décision de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris qui condamnait l'ancien chef de l'État à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Un jugement qui a suscité de nombreux commentaires et Nicolas Sarkozy a immédiatement fait appel de cette décision. Justice, droit, politique, ce sont 3 mots qui ne vont pas ensemble, Natacha. Que pensiez-vous de la ligne de défense de Nicolas Sarkozy après le verdict?
La ligne de défense est assez attendue. La question, c'est de savoir si on peut réussir à regarder cet événement qui est quand même un événement marquant. Tout le monde l'a dit, c'est la première fois qu'un ancien président est condamné à de la prison ferme. C'est quelque chose tout de même d'énorme. Et le verdict est très rigoureux. Il faut essayer de regarder ça avec le plus de distance possible. Et il me semble qu'on peut en tirer quelques conclusions. D'abord, le fait que les réactions outrées de la droite sur le thème c'est une justice politique, le PNF, etc. sont d'une maladresse, à mon avis, insigne. On peut en effet critiquer le choix du parquet national financier, notamment sur cette affaire d'écoute dite par filet dérivant, qui pose réellement problème, je le pense. Et je pense que là, il y a quelque chose dont il faut véritablement se méfier. Allez écouter comme ça, de façon indistincte, un avocat et son client me semble très problématique. Pour autant, de fait, les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont des faits de trafic d'influence et on peut comprendre aussi une évolution, j'allais dire, des mentalités et qui touche aussi forcément le droit. Ça ne veut pas dire que les magistrats ont jugé plus sévèrement qu'ils n'auraient dû, ça veut dire qu'ils ont jugé très sévèrement parce que l'ensemble de la société est en train d'évoluer face à ces faits de trafic d'influence qui, jusqu'à présent, étaient l'habitude des puissants. Et je pense qu'il y a là une évolution que les politiques doivent absolument comprendre et prendre en compte, même si, en effet, on peut considérer que c'est un jugement très sévère.
Gilles Finkelstein.
Il est légitime, contrairement à ce que l'on dit souvent, de commenter une décision de justice, voire le cas échéant de la critiquer, et a fortiori de revenir sur celle-là, parce que Natacha l'a dit, c'est un vrai événement. Quand on regarde la ligne de défense de Nicolas Sarkozy et de ses avocats depuis le jugement, ce qui m'a frappé, quand on regarde les arguments qui ont été mobilisés, c'est qu'en réalité, très peu a été dit sur le jugement lui-même. Beaucoup des arguments se sont concentrés sur l'avant, ce sont les attaques contre le parquet national financier, ce sont, pour Nicolas Sarkozy, ce décalage entre ce qu'il appelle la réalité de l'audience et le jugement, c'est les critiques sur les juges d'instruction, mais ce ne sont pas ces juges-là qui ont prononcé la condamnation. Donc il y avait beaucoup de critiques sur l'avant, il y avait beaucoup de projections sur l'après. On rappelait évidemment que Nicolas Sarkozy, faisant appel, était présumé innocent et que le jugement n'était pas définitif. Et de manière étrange, on voyait Nicolas Sarkozy se projeter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je dis de manière étrange parce que cela apparaissait, cela sonnait presque comme une résignation face à une confirmation en appel et en cassation du jugement de première instance. Et étrange aussi parce que lorsqu'il était candidat aux primaires, Nicolas Sarkozy souhaitait que la France quitte la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y avait beaucoup de choses sur l'avant, une projection sur l'après, mais très peu de choses sur le jugement lui-même, à part une incohérence ici ou le sentiment d'une injustice. Et ça me faisait penser à un candidat à une élection qui, le soir de sa défaite, continue à rejouer la campagne, l'avant, continue à se projeter vers les futures campagnes, mais n'est pas capable d'analyser le verdict des urnes.
Est-ce qu'il a raison, malgré tout, de pointer une justice politique? Je commençais en disant qu'il y avait contradiction entre ces termes, mais c'est un discours qui revient très régulièrement et dans la bouche de ténors des Républicains. C'est une accusation qui est lourde et qui est grave.
Oui, et le terme est très piégeux, parce que quand on dit justice politique, beaucoup de gens entendent l'instrumentalisation de la justice par un camp politique contre un autre camp politique. Oui. Or, je ne crois pas une seconde que ce soit ça qui se joue. Ce qui se joue, c'est le fait que la justice, les magistrats, considèrent sans doute beaucoup plus qu'avant que les politiques ne sont pas au-dessus des lois et que leur légitimité de magistrat est aussi forte que la légitimité des politiques qu'ils tiennent du suffrage universel. Mmh. Et en fait, c'est cette confrontation-là que nous vivons. Et vous pouvez avoir les deux options, je veux dire philosophiquement, vous avez des gens qui vous disent la vraie légitimité c'est le suffrage universel, il faut donc garder cette légitimité et le pouvoir des juges aujourd'hui affaiblit cette légitimité du suffrage universel. Pour ma part, je ne crois pas. Je crois que nous pouvons trouver un équilibre et que cet équilibre viendra de la capacité des politiques à comprendre qu'il y a des comportements qui sont désormais inacceptables. Après, il y a un deuxième point qu'il va falloir souligner, c'est la comparaison du fait du calendrier, entre ce jugement et le rôle de la Cour de justice de la République et la question de savoir si, quand on a une juridiction spéciale pour les politiques, ce n'est pas beaucoup plus indulgent que quand ce sont des magistrats qui jugent, ce qui, dans un cadre où, en effet, beaucoup critiquent la Cour de justice de la République, va là aussi sans doute amener à des modifications.
Alors, justice politique, je ne crois pas du tout. En revanche, justice pour les politiques, sans doute. On est passé d'une époque, il y a 20, 30, 40 ans, dans laquelle on dénonçait une forme de servilité de la justice par rapport aux politiques, à une situation dans laquelle il y a une sévérité accrue de la justice pour les politiques. Ou quand on regarde, c'est vrai, pas seulement pour Nicolas Sarkozy, quand on regarde les peines qui ont été prononcées pour d'autres responsables politiques ces dernières années, on voit que s'ils n'avaient pas été des responsables politiques, leur peine aurait sans doute été inférieure. Ce qui n'est pas condamnable, en ce sens que les juges, je crois, à juste titre, soulignent le devoir d'exemplarité des responsables politiques. Et donc, on est passé de cette situation, et c'est pour ça que je dis non pas justice politique, mais justice pour les politiques. Et enfin, jugement aux conséquences politiques, avec une double clarification sur le statut de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'était pas en situation d'être candidat en 2022, mais pour la première fois, il l'a dit de manière explicite. Donc il fait un recours au sens juridique du terme, il n'est plus un recours au sens politique du terme. Il n'est plus un adversaire à combattre, mais il est un soutien à conquérir, en montrant qu'il n'y avait aucune automaticité à son soutien et donc qu'il faudra lui témoigner les égards auxquels il a droit. C'est la première clarification. Et la deuxième clarification, elle est non pas sur le statut de Nicolas Sarkozy, mais sur la stratégie de Marine Le Pen. On a vu qu'elle allait soutenir l'ancien président de la République.
Ça vous a étonné ?
Ça ne m'a pas étonné parce que, à la fois, on voit que c'est elle-même qu'elle soutient aussi, puisqu'elle a maille à partir avec la justice, mais surtout, c'est cohérent avec ce que j'évoquais au lendemain du débat avec Gérald Darmanin, un changement de stratégie. Elle ne vise plus à conquérir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais ceux des Républicains. On l'avait vu dans ce débat-là avec ce changement de ton, on l'a vu depuis lors avec la tribune qu'elle a publiée dans l'Opinion expliquant qu'il fallait rembourser les dettes pour rassurer les électeurs âgés des Républicains. On le voit une nouvelle fois avec le soutien qu'elle apporte à l'ancien président de la République.
Natacha Polony.
Je pense que je souscris totalement à ce que vient de dire Gilles. J'ajouterais une chose. On a vu beaucoup de politiques marquer leur distance vis-à-vis de ce jugement. Je pense que ça nous raconte que nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle forme de confrontation entre les politiques et les juges. Je pense que les citoyens, en revanche, ne devraient pas être exclus de cette question-là, qui est absolument cruciale, à un point, à une nuance près, qui est qu'il ne faut surtout pas confondre ce rapport entre politique et justice qui se situe sur la question de, Gilles l'a dit, de l'exemplarité, et je crois, moi, à la nécessaire exemplarité des gens qui ont une position éminente. Mais ça ne doit pas se confondre avec l'instrumentalisation de la justice contre les politiques, par exemple quand il s'agit de critiquer des choix politiques. Et ça, c'est une dérive que l'on voit actuellement et qui, elle, en revanche, me semble profondément dangereuse. Ça a commencé avec la mise en cause de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Et ça se poursuit aujourd'hui avec la mise en cause d'Édouard Philippe, par exemple, sur les choix autour de la pandémie de coronavirus.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Génération identitaire ne défendait plus des idées. Il en était le bras armé de l'extrémisme et de la xénophobie. Cela s'incarne dans les uniformes et la hiérarchie au sein de l'association, dans les exercices paramilitaires proposés aux adhérents ou encore par les actions menées. C'est une nouvelle preuve que nous ne laisserons aucun groupe, quel qu'il soit, jouer de nos lois et de nos valeurs.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse mercredi après la dissolution en Conseil des ministres de Génération Identitaire. Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion. Voici ce que dit le décret et Génération Identitaire, je poursuis, peut être regardé comme présentant le caractère d'une milice privé. Comment regardez-vous cette décision, Natacha ?
Avec circonspection, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je m'interroge sur la postérité juridique de ce décret et qu'il va falloir voir et qu'il serait très problématique qu'il soit rejeté par le Conseil d'État, ce qui enverrait un message tout à fait délétère. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si juridiquement tout cela tient. Surtout, je ne crois pas qu'on combatte des idées néfastes par la dissolution d'associations. Et je dis cela, je pense que c'est valable pour Baraka City et le CCIF, comme c'est valable pour Génération Identitaire. Il y a un combat culturel à mener contre les et un combat politique, surtout contre les identitarismes divers, qui aujourd'hui sont en train de fracturer le pays. Une association comme Génération Identitaire se reformera sous un autre aspect. Et surtout, les problèmes idéologiques qu'il pose, la dimension identitaire racialiste de ses membres, ne disparaîtra pas parce qu'on dissout l'association. Et je pense que il serait nécessaire aujourd'hui de se mobiliser pour ce combat politique plutôt que d'envoyer des messages qui sont des messages assez évidents de communication dans une tentative d'équilibre entre d'un côté le CCIF et de l'autre Génération Identitaire, ce que tout le monde a bien perçu, c'est donc de la communication politique. Est-ce que c'est efficace? Je m'interroge.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois on peut évidemment se placer dans cette séquence courte des dissolutions d'un côté du CCIF et de Baraka City et de l'autre côté de Génération Identitaire. Je crois qu'il faut aussi se placer dans une séquence longue d'analyse de la mouvance identitaire en France. Vous avez d'assez nombreux groupuscules autour de cette mouvance dont le plus important n'est pas Génération Identitaire, mais le bloc identitaire, dont Génération Identitaire est, disons, la branche de la jeunesse. Et cette mouvance identitaire, a un objectif depuis longtemps, ce que Jean-Yves Camus, spécialiste de l'ultra-droite, appelle l'action métapolitique, c'est-à-dire la diffusion, la popularisation d'un certain nombre de thèmes. Et ce qui est frappant, c'est de voir la pénétration de ces thèmes dans le débat public, l'influence qu'ils ont, l'influence idéologique et l'influence politique.
On peut le mesurer ?
On peut le mesurer. L'influence idéologique, c'est eux qui ont contribué, avec d'autres, mais beaucoup, à populariser les thématiques du grand remplacement ou de la remigration. Surtout, c'est eux qui ont contribué à installer la question de l'identité comme une question centrale, l'identité et pas la nation. Bon, et donc, je dis influence politique parce qu'il y a une porosité entre cette mouvance identitaire et le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, même si évidemment les deux ne coïncident pas parfaitement. Il y a une porosité des cadres et des élus, puisque un certain nombre d'élus sont issus de cette mouvance identitaire. Il y a une porosité sur la ligne et on voit la jonction entre l'influence idéologique et l'influence politique lorsque, par exemple, on voit que 60% des sympathisants du Rassemblement National partagent la thèse du grand remplacement. La question qu'on avait posée, c'était est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que l'immigration est organisée par les élites pour aboutir au remplacement de la population européenne par une population immigrée ? 60% des sympathisants du Rassemblement National répondent oui à cette question. Donc on voit l'influence de cette mouvance. Génération identitaire n'en est qu'une des branches. C'est la branche la plus visible parce que ce sont des jeunes qui maîtrisent parfaitement les nouveaux codes de la communication parce que leurs actions oui. sont spectaculaires. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir à ce qu'évoquait Natacha de la dissolution.
Mais du coup, vous êtes plutôt favorable à la dissolution si tant est qu'on sorte du terrain purement juridique.
Alors, sur le combat juridique, le gouvernement a choisi d'aller sur ce terrain-là, la dissolution. Quand on lit ce qui a été reproché à Génération Identitaire, c'est argumenté. Est-ce que ça répond à la loi de 1936 après sur la dissolution des ligues? On sait que la liberté d'expression a des limites. C'est le cadre de cette loi. Maintenant, ça va être jugé par le Conseil d'État. Il serait bien pour tout le monde que cette décision ne soit pas cassée. J'ai pas de problème philosophique avec la dissolution de Génération Identitaire. Pas du tout. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le seul moyen, et loin de là, ni le moyen le plus efficace. Le risque, comme toujours lorsqu'il y a une dissolution, c'est qu'il y ait une reconstitution, renaissance sous une autre forme. C'est que les lieux de sociabilité qui sont très importants dans ces mouvances-là, les bars associatifs, les salles de boxe, continuent évidemment à fonctionner.
Enfin,
c'est le risque de
pas en ce moment, mais je le dis en souriant.
Pas en ce moment, mais demain.
Effet bénéfique du coronavirus.
Et c'est le risque d'une radicalisation plus importante encore de certains d'entre eux. Donc ça, ces risques-là, ils existent à chaque fois qu'il y a une dissolution. L'essentiel, c'est le combat idéologique et politique pour contrer l'ensemble de cette mouvance.
Encore un mot, Natacha, avant de passer au prochain sujet.
Juste un mot sur le sondage que citait Gilles, sur le grand remplacement, parce que si je me souviens bien de ce sondage, 49% des Français adhéraient à cette thèse il faudrait que je revérifie les chiffres. J'avais retenu 49% des Français et 36% chez les Insoumis, ce qui m'avait effaré. Parce que dans la question, Gilles l'a dit, il y avait l'idée que le grand remplacement, c'est le remplacement volontaire par les élites, une politique volontaire des élites. Or ça, je ne sais pas si les sondés avaient bien compris que c'était ça dont il s'agissait, ce qui relève en effet d'une vision complotiste. Pour le moins. Donc c'est pour ça que je suis perplexe face à cette idée d'une diffusion absolue de cette thèse du grand remplacement, parce que la question de la volonté des élites me semble quelque chose d'assez problématique. Deuxième point, sur la question de la diffusion de ces idées, je pense en effet, je le répète, que c'est par le combat politique qu'on combat quelque chose qui est en train de gagner, mais qui gagne l'ensemble de la société. C'est-à-dire que la vision identitaire, l'identité plutôt que la nation, comme le disait Gilles, c'est en train de gagner absolument tous les camps politique aujourd'hui. Et c'est cela surtout qui me semble extrêmement frappant. Et quand on regarde les sondages sur la jeunesse en particulier, on voit combien c'est une vision qui est en train de supplanter l'appartenance à une communauté politique, ce qui me semble devoir être pris au sérieux. Pas seulement parce que, dans le cas de génération identitaire, c'est une conception haineuse et agressive de l'identité, une conception raciste de l'identité qui est mise en place.
Gilles, vous aviez écrit un livre dont le titre était « Piège d'identité ». Juste pour clore le chapitre.
Oui, juste pour clore le chapitre en précisant le oui, chiffre qui évoquait Natacha
ici.
Un petit peu.
Bon,
la moyenne des Français était de 25%.
C'est tout?
C'est tout, ce qui n'est pas rien.
Alors, tant mieux. Non, mais je m'en réjouis.
Jusqu'à 58% pour les sympathisants du Rassemblement National.
Le duel continue. Bon.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Comme je vous l'ai toujours dit, le confinement n'est pas impossible. Mais il n'est pas inéluctable. Pour le gouvernement, c'est de mettre un coup d'accélérateur sur les tests et sur les vaccins. Et très vite, dès ce week-end. Nous devons tenir ensemble.
Nous devons tenir ensemble, disait donc le Premier ministre jeudi soir au cours de cette traditionnelle conférence de presse qui se répète semaine après semaine. Le confinement n'est pas impossible, mais il n'est pas inéluctable. J'ai eu du mal d'ailleurs à prononcer la phrase qu'a martelé Jean Castex parce que j'ai eu du mal à la comprendre. Est-ce que vous, Gilles Finkelstein, vous en avez saisi le sens immédiatement? Le confinement n'est pas impossible, mais il n'est pas inéluctable. La double négation est assez curieuse.
Oui, et en même temps, on comprend bien, c'est toujours une menace, un risque qui plane au-dessus de nos têtes, et le gouvernement essaye de tout faire pour qu'il n'y ait pas de confinement, a fortiori pas de confinement général.
Mais s'il fallait mettre des sous-titres, on pourrait dire tout simplement « le confinement peut-être ».
Oui, on peut le dire, c'est de manière plus simple, le confinement peut-être, mais pas tout de suite.
Et en l'occurrence, il y a l'essentiel, c'est-à-dire que Jean Castex déclarait jeudi que la France devrait avoir vacciné 30 millions de personnes d'ici l'été, et il y en a 3 200 000 qui sont vaccinés à ce jour. Natacha.
Alors, pour ce qui est de la phrase de Jean Castex, elle est intéressante parce qu'elle montre, on a l'impression de retrouver un petit peu ces philosophes métaphysiciens qui distinguaient le nécessaire et la nécessité face à la liberté humaine, c'est-à-dire en gros, ça ne peut pas ne pas être, mais ça ne sera peut-être pas quand même, hein, vous voyez?
Oui.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la subtilité profonde, non, cela veut dire en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, que il y a de la part du gouvernement une tentative de faire perdurer cet équilibre qu'ils ont trouvé et qui me semble, pour ma part, pour l'instant satisfaisant, c'est-à-dire un équilibre entre la juste mesure du danger et la nécessité absolue de laisser vivre au maximum les citoyens. Sur les vaccins, en revanche, je suis frappée par le risque que les retards de politique vaccinale font courir, notamment au niveau européen. Je pense que nous sommes en train d'assister là à des mouvements centrifuges qui me semblent profondément inquiétants. Parce que en effet, la stratégie vaccinale va s'accélérer. En effet, on voit bien par exemple comment le gouvernement nous explique que petit à petit, nous allons enfin réussir à monter en puissance. Et si ça se trouve, dans 6 mois, en effet, les chiffres promis auront été atteints, même si c'est un peu plus tard que prévu, et tout le monde aura oublié les retards du début. C'est possible. Pour autant, ce qui laissera des traces, c'est le fait que le Danemark et l'Autriche décident de se fournir auprès d'Israël, c'est le fait que la Hongrie, la République tchèque, que la Hongrie choisisse le vaccin russe et que la République tchèque ait l'idée d'y recourir, c'est-à-dire le fait que nombre de pays aient acté une forme d'échec de la Commission européenne dans ce qui devait être une stratégie commune extrêmement importante.
Gilles, la question européenne que soulevait Natacha, c'était bien parti et puis ça se termine mal?
Ce n'est pas terminé, mais le moment est un moment difficile. Je crois que Natacha Polony a raison. Et en fait, je pense qu'on est tous traversés par des sentiments assez mélangés. C'est-à-dire, d'un côté, l'optimisme, qui est plutôt mon tempérament personnel. C'est, on a le vaccin et là, on commence à vacciner. Au niveau mondial, il y a une solidarité un peu plus forte qu'il y a quelques temps. Au niveau européen, il y a des commandes quand même très importantes. C'est 2 milliards de vaccins qui ont été commandés. Et il y a eu des réactions au retard, puisque on est en train d'examiner le vaccin russe, parce que on a relancé des commandes supplémentaires, parce qu'on a mis la pression sur les laboratoires. Mmh. Au niveau français, optimisme, parce que les plus âgés, les plus fragiles sont un peu plus vaccinés que dans les autres pays européens, et puis parce que je regardais les chiffres de livraison, dans un mois on sera à 25 millions de doses
de vaccins.
Bon, donc ça c'est les éléments d'optimisme. Et d'un autre côté, et peut-être de manière dominante dans le moment, mais peut-être que c'est simplement une question de sensibilité. Il y a une insatisfaction quand on regarde le retard de l'Union européenne par rapport aux grandes démocraties et les forces centrifuges qu'évoquait Natacha Polony. Il y a une forme d'incompréhension par rapport à ce qui se passe en France aussi. Quand vous prenez simplement ce chiffre-là, 75% des doses d'AstraZeneca sont aujourd'hui dans les réfrigérateurs.
C'est
difficile à comprendre, et c'est difficile quand on voit notamment les difficultés de mobilisation des médecins généralistes. Ah, on comprend pourquoi, c'est-à-dire on comprend parce que les lourdeurs, c'est eux qui doivent aller chercher eux-mêmes leurs patients pour les convaincre de venir. C'est eux qui doivent, il y a des lourdeurs administratives, c'est eux qui doivent aller chercher les vaccins. Donc, il y a toutes ces lourdeurs, mais malgré tout, on a le sentiment d'une mobilisation qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et enfin, je termine par là, il y a aussi, de manière plus large, une forme d'inquiétude par rapport... On parlait de la défiance tout à l'heure. Eh bien, on voit que c'est pas simplement un état de l'opinion, c'est que ça a des conséquences. Mmh. Ça a des conséquences concrètes sur les politiques qui sont conduites. On l'avait évoqué lors de la stratégie initiale de vaccination du gouvernement français, qui peut-être avait surestimé d'ailleurs cette défiance. On le voit lorsque la France a choisi, contrairement à l'avis de la Haute Autorité de Santé, de ne pas espacer davantage les deux doses de vaccins, ce qui fait qu'il y a moins de primo-vaccinés en France qu'ailleurs. Et on le voit aussi dans les réticences qu'il y a eu au début, plus fortes qu'ailleurs sur l'AstraZeneca, qu'on a réservé aux moins de 65 ans, avant d'élargir à nouveau. Et donc, on voit que cette défiance, eh bien, elle produit des effets, or, il y a urgence.
Natacha ?
Oui, je pense... Pardon, je ne vais pas en ajouter, je ne vais pas en rajouter sur cette question des vaccins. Juste une parenthèse sur notre précédent débat, le sondage IFOP. Je parlais du sondage IFOP de 2018 sur le grand remplacement. Et les chiffres exacts, j'étais pas très loin, pour le coup, donnaient 48% des Français adhérents à cette thèse et 39% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup à dire sur la méthodologie de ce sondage.
À suivre sur France Inter, le débat avec l'économiste Olivier Blanchard.
France Inter, le grand face-à-face, le débat. Voilà.
Et si on se projetait vers le monde de demain, celui de l'après-Covid, lorsque nous serons enfin libérés de la pandémie, et si on se projetait même vers le monde d'après-demain? Mais comment savoir quelles tendances de fond resteront de toutes celles qu'a révélé accélérer la crise sanitaire? Pour en parler, l'un des experts, l'un des chercheurs les plus influents au monde, ancien chef économiste au FMI, le Fonds monétaire international, il est professeur émérite au très prestigieux MIT. Emmanuel Macron l'a nommé avec le prix Nobel Jean Tirol à la tête d'une commission d'experts sur les grands défis économiques, et leur tâche est de réfléchir justement à l'économie du monde d'après autour de trois grands thèmes: le réchauffement climatique, les inégalités, le vieillissement. Bonjour Olivier Blanchard.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous réservez, et on le comprend très aisément, les conclusions de vos travaux au président de la République qui vous les a commandées. Mais d'abord, une question de méthode, Olivier Blanchard, puisque vous avez été en pleine crise financière au FMI. Vous avez participé à l'élaboration de la vision économique qui permet aujourd'hui d'affronter les crises et de les traverser. Mais avec quels outils, avec quel logiciel, avec quelle partie de votre imagination vous pouvez vous projeter vers ce monde de l'après-Covid qu'on a du mal vraiment à se représenter ?
Sur le post-Covid, il me semble qu'il y a deux scénarios et ils dépendent beaucoup de l'évolution du Covid lui-même. Il y a le scénario qui paraissait le plus probable, disons jusqu'à il y a quelques mois, où il y avait un après-Covid assez net. On avait totalement conquis Covid, il existait peut-être, mais il comptait pas dans nos vies, et on retournait à peu près à là où on était avant, avec peut-être quelques changements en matière de télétravail, etc. Mais c'était pas du tout révolutionnaire ou totalement différent de là où on était il y a un an et quelques mois. Ça reste, à mon avis, le scénario central. On va se retrouver un peu dans la situation dans laquelle on était juste avant Covid, avec les mêmes problèmes. Peut-être un peu pire, mais enfin le réchauffement climatique, il a continué un peu moins vite, mais il continuera. Les inégalités, elles sont toujours là. Covid les a rendues temporairement encore pires. Le vieillissement de la population, qui est fondamentalement une très bonne nouvelle, ça va continuer. Donc, en gros, on avait laissé ces problèmes de côté. Quand Covid se termine, il faudra y retourner. L'autre scénario, c'est qu'on continue à avoir aussi un gros problème Covid, qu'on n'arrive pas à le contrôler, que les variantes se révèlent très difficiles à contrer, que les vaccins marchent moyennement, et qu'on se retrouve dans une phase beaucoup plus ambiguë, où il continue à y avoir du confinement de temps en temps, où les gens ont tout de même la trouille d'aller dans les stades, dans les théâtres, au restaurant.
Oui.
On ferme les frontières parce qu'on se dit peut-être qu'on va se protéger de la nouvelle variante qui est dans le pays d'à côté. Et ça, c'est un monde beaucoup plus incertain. Je pense que pour le moment, la probabilité que ce soit dans ce scénario est certainement relativement faible. Mais on doit commencer à y réfléchir.
Olivier Blanchard, je vais donner la parole tout de suite à Gilles Finkelstein et Natacha Polony. J'aimerais juste vous soumettre cette phrase que prononçait Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il disait à des entrepreneurs au cours d'une conférence « Ne vous demandez pas ce qui va changer, demandez-vous ce qui ne va pas changer ». Est-ce qu'il est de bons conseils pour penser le monde de demain, même le monde d'après-demain?
Je crois que 95% des choses ne vont pas changer. Je crois qu'on va retourner à des vies assez similaires avec, dans certains cas, des traumatismes. Par exemple, les étudiants qui se sont retrouvés à l'extérieur de l'université pendant un an ou plus, ça va les affecter pendant toute leur vie. Les gens qui ont été au chômage trop longtemps, etc. Mais oui, je crois que dans l'ensemble, cette espèce de vision d'un monde Covid totalement différent, est trop extrême. Je pense qu'on va d'ailleurs essayer de retourner un peu là où on était, avec là encore des changements. Télétravail, c'est pas négligeable, mais c'est pas un changement de société.
Gilles Finkelstein.
Oui, Olivier Blanchard, vous étiez chef économiste du FMI au moment de la grande crise financière de 2008 et des crises qui ont suivi. On a aujourd'hui une récession qui est plus importante encore, et partout la question qui se pose est de savoir quel plan de relance mettre en place. C'est vrai au niveau national, c'est vrai évidemment au niveau européen, c'est vrai au niveau américain. On a vu que, au-delà de ce qu'avait fait Donald Trump, Joe Biden a lancé un plan de relance plus important encore, 1900 milliards de dollars. Mes questions sont simples. C'est un, est-ce qu'ils vous paraissent bien calibrés? Est-ce qu'on est au bon niveau? Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est trop peu? Est-ce qu'ils sont bien orientés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de revenir au monde d'avant, mais vous l'avez dit, est-ce que ces plans préparent aux grands défis de demain? Et c'est très important pour leur réussite, est-ce qu'ils sont bien rythmés?
Olivier Blanchard.
Très bonne question. Il faut savoir à quoi servent les plans à l'heure actuelle. Il me semble qu'ils ont deux fonctions. La première, c'est bon, d'abord de dépenser tout ce qu'il faut pour vaincre le virus. Et ça coûte pas très cher en termes macroéconomiques. Ce sont des sommes énormes, mais assez faible par rapport à la production nationale. Donc ça, il faut le faire. Il faut protéger les gens qui ont perdu leur boulot temporairement. Donc ça, c'est le chômage partiel en France, d'excellentes mesures. Il faut aider les boîtes qui seraient en difficulté à surmonter, à tenir jusqu'à la fin du Covid. Ça représente beaucoup d'argent. Ça, il faut le faire sans réfléchir, et on a la marge pour le faire. On a, heureusement, des taux d'intérêt qui nous permettent d'emprunter à des taux bas, et donc on a la marge, il faut le faire. La deuxième est une raison plus macroéconomique, qui est que pour le moment, les gens sont assez frileux en termes de dépenses, que les entreprises sont assez prudentes en termes d'investissement, et que donc la demande globale, la demande agrégée, est faible. Et là, il faut relancer la demande autant qu'on peut, aider la demande à faire qu'elle permette de produire, disons, à peu près le niveau de production potentiel de l'économie. Et chaque programme doit essayer de faire les deux. Donc, et là, il y a une différence très forte entre les États-Unis et l'Europe. Et ça amène à la deuxième partie de la question. Je ne crois pas que les plans américains soient bien calibrés. On a un déficit de production aux États-Unis qui est à peu près de 1000 milliards, au pire. C'est-à-dire qu'on peut augmenter la production de 1000 milliards sans avoir de la surchauffe. Le plan Biden, plus ce qui a déjà été fait en décembre, c'est à peu près 3000 milliards de plus. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus que le PIB français, par exemple. C'est une énorme relance. Alors, là-dedans, il y a pas mal de protections, il y a pas mal de dépenses sanitaires, c'est très bien, mais il y a beaucoup plus, il y a des cadeaux un peu pour tout le monde. Et moi, ce qui m'inquiète aux États-Unis, et ce qui m'a fait travailler depuis quelques semaines là-dessus, c'est que ces 3 milliards, s'ils arrivent en termes de demande, vont amener une énorme surchauffe de l'économie américaine. Surchauffe, c'est pas la fin du monde en soi, mais on peut imaginer que ça peut amener soit de l'inflation, soit obliger la Banque centrale, la Fed, à réagir, à augmenter les taux d'intérêt. Donc, je crois que les États-Unis en font beaucoup trop. Symétriquement, en Europe, est-ce qu'on en fait assez? Je pense que pour le moment, on en fait assez. En termes de protection, on protège à peu près tout le monde, pas parfaitement, on protège largement les entreprises, et on continue à le faire, et on dépense à peu près ce qu'il faut. Est-ce que ça va être suffisant pour relancer la demande? On ne le sait pas parce que ça dépend beaucoup de la première discussion qu'on a eue. Quand on va sortir du Covid, si on sort du Covid, est-ce que les gens vont être très optimistes? Oui. Ils vont vouloir dépenser l'épargne qu'ils ont accumulée? Auquel cas, il n'y a peut-être pas besoin que l'État aide beaucoup. Peut-être qu'on va avoir beaucoup de demandes. Ou est-ce qu'ils vont sortir assez pessimistes? Dans l'autre scénario, ils vont continuer à épargner. Il va falloir que l'État aide. Donc, je dirais pour le moment, pour résumer, aux États-Unis, trop. En Europe, peut-être pas assez, mais il faut attendre. On va voir où ça va et il faut être prêt à dépenser plus. Donc pour le moment, je suis plutôt du côté européen que du côté américain.
Natacha Polony.
Oui, dans cette crise, tout le monde s'accorde à dire que les jeunes générations payent un lourd tribut et que peut-être nous ne mesurons pas encore ce que nous faisons peser sur leurs épaules, dans la mesure où non seulement il y a cette souffrance psychologique, cette question d'entrée sur le marché du travail, tout ce qui est aujourd'hui très bien analysé, mais c'est aussi à long terme que va se jouer la possibilité de construire un monde qui préserve, j'allais dire, ces générations-là, notamment dans les pays européens. Dans Marianne, Emmanuel Todd avait, dans une interview, exprimé l'idée qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, justement où la jeunesse avait pour le coup payé un tribut effarant, eh bien, avait été inventé un monde dans lequel, finalement, ces jeunes-là pouvaient construire, pouvaient se projeter. C'était une sorte de remboursement à travers l'inflation, la possibilité de se souscrire des crédits, de se lancer dans la vie, sur le marché du travail, ce qui évidemment était aidé par le plan Marshall, par la reconstruction. Mais la question est de savoir comment nous allons faire pour créer un monde qui soit favorable aux jeunes, sachant qu'avant le coronavirus, nous étions dans un monde qui favorisait plutôt les épargnants, la stabilité, ceux qui possèdent le patrimoine au détriment de ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient emprunter. Et la question, finalement, c'est de savoir comment est-ce qu'on crée, par exemple, comment on fait, et notamment, faut-il en Europe favoriser un peu plus d'inflation, mais peut-on le faire dans la mesure où, pour l'instant, les milliards qui sont déversés créent des actifs, c'est-à-dire des inégalités, et ne permettent pas d'aller vers plus d'inflation?
Olivier Blanchard.
Là encore, de bonnes questions. D'une certaine façon, le mal est un peu fait. Le mal Covid est un peu fait. Beaucoup d'étudiants ont souffert, ont appris moins. C'est vrai aussi des écoliers, des gens au collège, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que si, par exemple, à très court terme, si le Covid continue, il faut se poser la question, par exemple, de ce qu'on fait avec les gens qui sont au chômage partiel, qui ne sont pas nécessairement des jeunes, d'ailleurs, mais qui sont souvent des jeunes. Parce que c'est très bien d'être payé, ils sont à peu près payés, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils n'ont pas de perspective. Il me semble qu'il y avait... Il y a un plan plus général qui commençait à être mis en place avant Covid, qui est le plan de formation professionnelle. Il me semble que ce serait pas mal, par tous les moyens, d'essayer d'offrir une formation professionnelle à ces gens qui sont au chômage partiel, dans la mesure du possible. C'est pas du tout évident, parce que mettre en place de la formation professionnelle très vite, il faut du matériel, il faut le matériel humain, etc., etc. Mais on peut peut-être demander aux entreprises de faire un effort. Je pense que c'est quelque chose auquel on devrait réfléchir, à prendre des gens, à leur donner une formation, tant que le Covid dure, pour qu'ils aient soit la possibilité d'apprendre dans leur carrière, soit de changer de carrière. Il y a pas mal de gens qui ne retrouveront pas leur boulot à la fin. À moyen terme, bon, il y a un certain nombre de problèmes dans la société française qui était là avant Covid, et qui est par exemple cette séparation entre CDD et CDI, qui crée des obstacles psychologiques énormes. On commence sa vie sans vraiment savoir si on va réussir à vraiment rentrer, c'est-à-dire vraiment avoir un CDI. On a une série de CDD où très souvent les gens qui vous emploient ne vous forment pas. Donc on a des tas de problèmes qui existaient avant, qui existeront après. L'idée de l'inflation, ça sert pas directement aux jeunes de faire de l'inflation. L'idée de l'inflation, c'est d'essayer de diminuer la dette en termes monétaires.
C'est l'euthanasie des épargnants, comme on disait autrefois.
C'est l'euthanasie des épargnants. C'est une manière de diminuer le poids de la dette. Ça me paraît pas nécessaire, puis ça me paraît pas ciblé. Si votre question, de manière générale, c'est est-ce qu'on doit réduire la dette, annuler la dette, on peut en parler. Mais du point de vue des jeunes, non, il faut prendre des mesures qui sont beaucoup plus ciblées, à mon avis. Mais il faut être assez créatif. Et puis, il y a urgence. Moi, je vois des gosses autour de moi qui sont maintenant au chômage partiel depuis près d'un an. Ça les affecte. Il va falloir réfléchir à ce qu'on peut faire pour eux.
Olivier Blanchard, vous êtes l'un des meilleurs observateurs de l'évolution de l'économie mondiale. Question qui est assez curieuse peut-être pour vous, mais quand on regarde le fonctionnement de ce qui est en train de se produire aujourd'hui, il y a eu une action massive des États, des banques centrales. Ils ont agi vite, ils ont agi très fort. Le but, c'était, vous l'avez dit, de compenser la perte de croissance à l'euro près, d'empêcher les pertes d'emplois, d'empêcher les disparitions d'entreprises, d'empêcher les baisses de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas contre le cours normal du capitalisme, qui est un monde plutôt darwinien, où normalement il y a des destructions, des disparitions d'entreprises, des baisses de pouvoir d'achat? Est-ce que, comme le pensent certains, on est dans un monde totalement artificiel, avec des entreprises zombies, avec ce qu'on appelle des jobs, des emplois zombies, qui disparaîtront, quoi qu'il arrive, une fois la crise passée?
Non, pas du tout. Le système capitaliste, il est composé de deux parties. Une économie de marché, où les entreprises font ce qu'elles veulent faire tant qu'elles respectent les règles. Et puis, un gouvernement qui intervient pour réparer un certain nombre de choses, redistribuer et faire ce qu'il a fait. Donc là, on a vu un choc qui nécessitait une grosse intervention du gouvernement, une intervention d'assurance, d'une certaine façon, de protéger des gens qui étaient affectés par quelque chose qui est, en gros, un météorite qui est tombé sur la Terre, il faut faire quelque chose. Donc, le capitalisme ne fonctionne bien que quand il y a des règles claires et qu'il y a un État puissant qui intervient quand il faut. Donc, l'État, à mon avis, est intervenu pas mal dans cette crise par rapport, par exemple, à la précédente, assez vite, assez fortement, que ce soit la taille des plans initiaux, que ce soit la diminution des taux d'intérêt par les banques centrales. Donc je crois que le gouvernement dans son ensemble a fait exactement ce qu'il devait faire. Il n'y a pas là d'éléments très surprenants, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Le fait qu'on a permis à des gens de toucher le chômage partiel alors qu'ils auraient pu travailler. Oui, peut-être, il y a probablement des gens pour qui ça a été le cas. Mais est-ce qu'on veut absolument, par exemple, que quelqu'un qui travaille dans un restaurant, et si le restaurant ouvre, par exemple, dans les mois qui viennent, est-ce qu'on veut absolument l'obliger à prendre un autre boulot pendant ce temps-là? Est-ce qu'on veut diminuer ses allocations chômage de manière à l'obliger à aller faire autre chose? Ça me paraît pas très rationnel. Donc il y a certainement des gens qui ont profité de la situation. Mmh. Mais à mon avis, c'est un coût minime par rapport à l'énorme aide qu'on a apportée à la plupart des gens. Pour les entreprises zombies, là encore, on a fait des prêts à des taux très généreux à toute une série d'entreprises. Et il y a probablement un certain nombre d'entreprises qui auraient fait faillite en l'absence de Covid. On sait bien, par exemple, que dans le secteur de la restauration, il y a beaucoup de faillites tout le temps, indépendamment du Covid. Il y a probablement des boîtes qui ont survécu à 2021, qui n'auraient pas survécu en l'absence de Covid, et qui survivront peut-être d'ailleurs en 2022 si on continue à les aider, et puis qui feront faillite en 2023 parce que de toute manière elles devaient faire faillite à un moment ou à un autre. Alors on peut les appeler des entreprises zombies, c'est un petit coup, peut-être que ça aurait été mieux que ces entreprises ferment, mais là encore ça a été en échange de protéger énormément d'entreprises qui avaient besoin d'aide et qui n'avaient rien fait de mal et qui, dans des conditions normales, devraient fonctionner. Donc, oui. Quand on fait quelque chose, il y a toujours un peu des abus. Mais à mon avis, dans ce cas-là, ils sont tout à fait minimes et tout à fait acceptables par rapport au but de ce qu'on a essayé de faire. Donc, je suis pas très inquiet pour les entreprises zombies. Si ça continue et qu'on doit encore leur faire des prêts, la question se posera. Est-ce qu'on leur demande de le rembourser ou est-ce qu'on pardonne? Je pense que dans beaucoup de cas, il faudra pardonner. L'État est dans une meilleure situation pour absorber les dettes que beaucoup de ces entreprises.
Alors précisément, un des effets de cette massive intervention des pouvoirs publics est que le cadre budgétaire issu du traité de Maastricht est obsolète. Il avait montré ses faiblesses déjà et même ses dangers lorsqu'il avait été appliqué à contre-temps et à contre-cycle dans la crise de 2008-2010. Il l'est aujourd'hui, il repose sur des critères qui sont très largement déconnectés des réalités. Je voyais les chiffres que publiait la Commission pour la fin de 2022 pour la zone euro. On serait à un peu plus de 100% de pourcentage du PIB pour la dette et à près de 5% pour les déficits. Donc on est très loin des critères de Maastricht. Dès lors qu'on considère qu'on a besoin, quand on a une monnaie unique, qu'on a un endettement commun, qu'on a besoin d'avoir des règles communes, on a aujourd'hui l'occasion de reposer ce débat, on a du temps, il y a un consensus sur la nécessité de le faire, et donc ma question est simple, que serait un nouveau pacte intelligent ?
Olivier Blanchard.
Bon, je crois qu'il faut accepter l'idée que pour que l'Europe fonctionne et que la zone euro fonctionne, il faut que les gouvernements aient des politiques budgétaires raisonnables. Qu'aucun gouvernement ne se mette à dépenser sans limite, mettant en cause la soutenabilité de la dette, le remboursement de la dette, et ça c'est un rôle très important parce que sinon il peut vraiment y avoir des catastrophes. Donc ça j'accepte totalement le but, je crois que c'est essentiel. Est-ce que ça a été très mal fait ? Oui, ça a été très mal fait parce qu'on a mis en place des règles qui étaient destinées à faire ça, mais qui étaient des règles qui, à l'époque déjà, je disais, étaient stupides et se sont révélées encore plus stupides depuis et ont été suspendues maintenant parce qu'elles n'avaient aucun sens. Donc la question centrale, c'est comment faire pour regarder si les pays sont sur les trajectoires de dette qui sont inacceptables, dangereuses, etc. Et le point, c'est que les règles qui étaient très simples étaient beaucoup trop simples. Par exemple, quand on dit qu'il y avait ce chiffre magique de 60% du PIB, oui. Il ne fallait pas dépasser 60% du PIB. Un niveau de dette de 60% du PIB, quand le taux d'intérêt est de 10%, c'est un vrai problème. Il faut payer 6% par an d'intérêt par rapport au PIB, c'est beaucoup. Il faut trouver l'argent, on ne le trouve pas, c'est dangereux, etc. Quand on est dans une situation comme celle d'aujourd'hui, où le taux d'intérêt est à peu près de zéro, pas tout à fait, okay. Le poids de la dette de 60% devient à peu près négligeable. On parle de 1% du budget ou moins. Et donc, on est dans une situation où ce chiffre de 60% n'a aucun sens aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Je crois qu'on réfléchit à la manière de... qu'est-ce que ça veut dire que la dette est soutenable ou pas ? En gros, ça veut dire que chaque État est capable de générer suffisamment de revenus pour payer les intérêts de la dette. En gros, c'est ça. Donc, la question se pose, si les intérêts de la dette sont très larges et que la capacité d'un gouvernement à augmenter les revenus, les impôts en pratique, est limitée, on risque de se trouver dans un problème. La manière de réfléchir à ça, c'est de faire ça pays par pays, année par année, et voir. La réponse à ça, quand on le fait pour le moment, c'est que la dette est parfaitement soutenable dans à peu près tous les pays européens. Et je mettrai là l'Italie, l'Espagne, la France, bien sûr l'Allemagne. Mais il faut y réfléchir complètement différemment, et on ne peut pas retourner à des règles qui sont très belles, très simples, mais qui sont de très très mauvaises règles.
Natacha Polony.
Continuons un peu cette exploration du supposé monde d'après, puisque là, il y avait donc cette question, en effet, de ce modèle. Je le disais tout à l'heure, c'est le modèle du choix de la stabilité pour les rentiers plutôt que la possibilité pour les actifs d'entrer dans le monde et dans le marché. Il y a aussi une autre question. On voit surgir dans l'Union européenne, un débat autour de la question des droits de douane écologiques. L'idée que, à partir de maintenant, il faudrait réfléchir à asseoir une taxe, par exemple, sur le différentiel de CO2 avec les pays dont on importe les produits. L'idée étant, puisqu'ils ne respectent pas nos règles environnementales, eh bien, on renchérirait le prix de leurs produits. Pourquoi cette question-là est-elle envisageable sur le plan écologique et ne l'est-elle pas sur le plan social ? Ne pourrait-on pas penser que de même que ça constitue une forme de protectionnisme vert, il faudrait réfléchir à une forme de protectionnisme social, c'est-à-dire l'idée de rééquilibrer les inégalités de protection sociale, puisque la conséquence de ces inégalités, c'est petit à petit de détricoter les protections sociales dans les pays européens.
Olivier Blanchard.
Encore, très bonne question. Sur le premier point, on peut parfaitement, c'est pas un jeu à somme nulle. Pour qu'il y ait plus d'emplois pour les jeunes, ça veut pas dire qu'il y ait moins d'emplois pour les vieux. Il peut y avoir plus d'emplois pour tout le monde.
Ah oui, ça bien sûr.
Et c'est ça qu'il faut faire.
Bon. Oui.
Sur la taxe carbone aux frontières, elle est absolument nécessaire parce que la taxe carbone est de fait nécessaire. Il faut réfléchir à toutes ces applications, mais ça paraît très difficile d'avoir une stratégie contre le réchauffement climatique sans taxe carbone. Et à partir du moment où on fait ça, eh bien, quand les entreprises de votre pays respectent les règles, paient la taxe carbone et que les autres ne le font pas, il y a un problème de compétitivité. Donc il faut une taxe carbone aux frontières. Elle s'ensuit. Est-ce qu'on peut le faire pour d'autres choses ? Oui, je pense qu'on peut le faire pour d'autres choses. Je pense, par exemple, que certains pays ne respectent pas certains droits fondamentaux humains. Et dans ces cas-là, on peut parfaitement penser qu'il y aurait une taxe aux frontières ou un refus d'accepter certaines importations si elles ont été produites, par exemple, par des enfants ou que les conditions sanitaires n'ont pas été respectées. C'est un peu difficile à mettre en place, mais toutes ces choses sont difficiles à mettre en place. Mais je suis tout à fait de votre côté. Je pense qu'on peut parfaitement réfléchir à quelque chose d'un peu symétrique.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure, le débat sur la dette. Il y a à la fois une réflexion sur la dette avec un certain nombre de commissions qui sont en place et il y a un débat sur l'annulation de la dette qui déchaîne les passions entre les économistes, qui dessine de nouvelles lignes politiques dont l'idée est que la dette des États qui est détenue par la Banque Centrale Européenne soit annulée. Vous avez considéré que c'était une idée idiote, je crois bien vous citer. Ma question est pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est amoral? Une dette doit être remboursée. Est-ce que c'est parce que c'est anachronique, la question n'est pas posée au bon moment ? Est-ce que c'est parce que c'est utopique, on n'arrivera pas à mettre d'accord les États européens ? Ou est-ce que c'est parce que c'est inopérant, ça ne sert à rien ?
Eh bien, vous avez répondu à ce QCM et la réponse, c'est la dernière.
Pourquoi ?
Parce que c'est totalement sans effet. Je vais essayer de vous expliquer de manière simple, et je crois que c'est facile à expliquer. C'est que, prenez une banque centrale qui détient des obligations du gouvernement, et qui décide très gentiment, ou moins gentiment, à la demande du gouvernement, de les annuler. Et donc, soudainement, l'État n'a plus besoin de payer à la Banque centrale les intérêts qu'elle payait sur ses obligations qui étaient détenues par la Banque centrale. Ça paraît formidable. Hein. D'un seul coup, on a diminué la charge d'intérêt que le gouvernement ou l'État a payé. C'est formidable. Le problème, c'est que la minute suivante, ils reçoivent un coup de téléphone de la Banque centrale qui dit « Vous savez, nos profits, ils sont basés sur les intérêts qu'on reçoit, sur les obligations qu'on détient. Et comme maintenant, vous ne nous payez plus d'intérêts, eh bien, les profits qu'on va vous renvoyer, parce que c'est ce que fait la Banque centrale, elle renvoie ses profits au gouvernement central, ils vont diminuer d'exactement du même montant. D'accord ? Donc, et à ce moment-là, le gouvernement se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord ? On paie moins, et on reçoit moins, et l'effet est de zéro. Alors, en pratique, on peut en discuter, c'est un tout petit peu plus compliqué quand il s'agit de la BCE que s'il s'agissait juste de la Banque de France, mais c'est ça l'idée, c'est que ça ne sert à rien, c'est juste un transfert d'écriture, et que on peut en parler pendant des semaines, et ce qui est très curieux, c'est que le seul pays dans lequel on en parle, c'est en France, mais la réponse, c'est que c'est ni amoral, ni anachronique, ni quoi que ce soit de ce genre, ça ne sert à rien. Et je suis sidéré de l'intensité d'un débat sur une mesure qui n'a aucune importance. Alors, si on annulait la dette d'autres créditeurs, alors, bien sûr, ça aurait des effets.
Oui.
Il n'aurait plus besoin de payer des intérêts. Mais les autres créditeurs, c'est qui ? C'est des fonds d'assurance, c'est des fonds d'investissement, c'est les gens qui vous donnent des assurances-vie et qui achètent des obligations. Donc, il y aurait des problèmes énormes dans l'économie si on annulait la dette au-delà de la dette de la Banque centrale. Annuler la dette de la Banque centrale ne sert à rien.
C'est très clair. Et vos explications, Olivier Blanchard, étaient passionnantes. Et merci d'avoir été l'invité du Grand Face à Face aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Raphaël Rousseau. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.